tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir notre pasteur Dina Radjons. Bonjour Dina.
Bonjour Marie-Christine.
Dina, tu es là aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler d'une grande décision du Synode national de l'Église protestante unie de France qui a pris la décision de bénir les couples de même sexe par une écrasante majorité, 94 voix pour et 3 voix contre.
Oui, c'est la grande nouvelle effectivement de notre Église. Donc le Synode national réuni à 7 lors du week-end de l'Ascension a donc pris la décision d'ouvrir cette possibilité de bénir les couples de même sexe. Mais avant d'aller plus en avant, on va vous lire tout à l'heure quelques extraits de cette décision. Il faut au préalable préciser 2 points. Le premier point, c'est le mode de fonctionnement de notre Église. Et le deuxième point, ce que c'est que le mariage chez les protestants. Alors le mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le mode presbytérien synodal. L'assemblée générale d'une église locale se réunit et consultée pour tous les sujets et envoie ensuite des délégués au niveau régional et ensuite au niveau national. Donc, dans ce synode, il y a à la fois des pasteurs et des laïcs, et non pas que des pasteurs, comme j'ai pu l'entendre souvent, notamment dans les grands médias lors de la promulgation de cette décision. Ce n'est pas le synode des pasteurs, c'est le synode qui rassemble à la fois des pasteurs et des laïcs. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose, ce n'est donc pas un groupe de personnes réunies à 7 pendant 4 jours qui ont pris cette décision, mais il y a eu un travail qui a été fait avec la base pendant 18 mois à peu près hein, sur ce sujet, sans compter que plusieurs années auparavant, nous avons discuté d'autres sujets dans l'Église, comme la famille, la parentalité, l'homosexualité, ainsi de suite. Ceci n'empêche pas que depuis cette décision, beaucoup remettent un petit peu en cause la représentativité. Marie-Christine parlait tout à l'heure d'écrasante majorité, effectivement, mais il y a différents courants, il y a différentes voix sur cette question dans l'Église protestante unie. Mais en tout cas, je tiens à dire cela en premier point, parce que ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère. Ensuite, un deuxième point qui me tient à cœur avant d'aller plus en avant, c'est de dire que les protestants ne marient pas. Le pasteur ne marie pas un couple. Pour nous, un couple qui rentre au temple est déjà un couple marié. Un mariage civil est un vrai mariage. Donc ce que nous faisons à ce moment-là, ce n'est pas un sacrement, c'est une bénédiction sur un couple déjà constitué. Et on peut encore aller plus loin en disant que pour nous, le couple se fait dans un échange de paroles, dans l'intimité du couple. Et bien sûr, il y a cette promulgation, cette ouverture à l'extériorité, avec la vie civile, la vie avec Dieu. Mais ce que nous faisons là n'est donc pas un sacrement, mais bien une bénédiction. Enfin, je dirais qu'un débat synodal n'est pas un combat. Les soi-disant débats mise en scène dans l'espace public et notamment médiatique, relève souvent du spectacle et ça instille en nous l'idée que s'il n'y a pas un vainqueur et un vaincu, le débat a été évité ou biaisé. Je crois qu'il faut résister à ce simplisme, car débattre, ce n'est pas convaincre l'autre de mes certitudes, mais débattre, c'est savoir écouter l'autre et puis faire un bout de chemin avec ses arguments à lui, même si ce ne sont pas mes arguments à moi. Donc voilà un petit peu une introduction. Maintenant, avec Marie-Christine, on va vous lire quelques passages de cette décision.
Le synode prend acte des positions diverses qui se sont faites entendre à ce propos au sein de l'Église protestante unie au cours de la démarche synodale, comme il en existe d'ailleurs dans d'autres églises. Il affirme que ces différences ne sauraient remettre en cause la communion fraternelle fondée en Jésus-Christ et non dans l'unanimité de nos convictions. Nous lisons tous dans les Écritures la joie d'un engagement à vivre un amour respectueux de l'autre. La bénédiction témoigne alors du oui de Dieu à l'amour entre deux personnes qui devient alliance et projet, chemin et promesse.
La suite de cette de cette décision, donc paragraphe. Nous lisons tous dans les Écritures la joie d'un engagement à vivre un amour respectueux de l'autre. La bénédiction témoigne alors du oui de Dieu à l'amour entre deux personnes qui devient alliance et projet, chemin et promesse. Tous aussi, nous recevons le témoignage des Écritures qui font de l'amour fidèle d'un couple homme-femme une parabole de la fidélité de Dieu pour son peuple. Mais nous n'en tirons pas tous les mêmes conséquences. Pour certains, seuls de tels couples peuvent être bénis liturgiquement, tandis que pour d'autres, la bénédiction de Dieu ne saurait être liée à l'orientation sexuelle.
Le synode est soucieux à la fois de permettre que les couples de même sexe se sentent accueillis tels qu'ils sont et de respecter les points de vue divers qui traversent l'Église protestante unie. Il ouvre la possibilité pour celles et ceux qui y voient une juste façon de témoigner de l'Évangile, de pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu. Vous écoutez Radio Grand Ciel et durant cette émission, nous serons accompagnés par Vivaldi avec le printemps, donc qui fait partie des quatre saisons, bien sûr. Il faudrait revenir, je crois, Dina, sur les arguments en faveur et en défaveur de cette bénédiction des couples de même sexe.
Oui, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, sans aller dans les détails des textes bibliques, ce qui pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais on va juste balayer comme ça 5 points argumentaires d'un côté comme de l'autre. Avant de vous détailler ces 5 points, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on ne va pas refaire le débat parce que la décision a été prise. La possibilité est désormais ouverte, même si ça ne s'impose pas à tous les pasteurs et à tous les conseillers presbytéraux. Hein. Une possibilité ouverte signifie que le pasteur, en lien avec son conseil, va discerner si oui ou non ils sont en faveur et puis s'ils sont en accord avec leur conscience sur cette question. Donc on ne va pas refaire le débat, il s'agit seulement de prendre acte des positions diverses qui se sont fait entendre au sein de l'Église au cours de cette démarche synodale. Alors, on peut classer ces arguments en 5 points, sans prétendre à l'exhaustivité, et je laisse la parole à Marie-Christine pour nous les lister.
Donc, le premier point concernant la création et l'altérité. Le deuxième concernant la sexualité, la conjugalité et la fécondité. Le troisième point concernant les textes bibliques. Le quatrième concernant la bénédiction de couples mariés de même sexe. Et le cinquième et dernier point concernant la communion de l'Église.
Voilà. Un point aussi quand même avant de commencer sur le statut des Écritures. parce que ce que nous appelons, nous, homosexualité, ne correspond pas à ce que la Bible appelle homosexualité. Cela signifie que lors du travail préparatoire, il y a eu un travail important de fait pour savoir que dit le texte dans son contexte, et ensuite, que me dit le texte à moi une fois que j'ai mesuré ce contexte. Alors, entendre un texte dans son contexte ne signifie pas tout relativiser au point qu'il n'ait plus rien à nous dire. Ça aussi, c'est un point important parce que ce ne serait pas interpréter le texte du coup, mais le neutraliser. Il faut lire alors la Bible à partir de son centre qui est Jésus-Christ. Et une fois qu'on a dit ça, on donne donc un statut à ce sujet de la bénédiction. C'est un sujet éthique. Ce n'est pas un sujet qui concerne directement le salut, comme on dit. Donc ça donne quand même un statut particulier à part au débat. Et je dois aussi dire que l'homosexualité en elle-même n'intéresse pas la Bible. Ce n'est pas un sujet central. Je tiens à le dire au début, car on pourrait être frustré si on veut une réponse directe sur la question. La Bible en parle par-ci, par-là, dans un cadre général, global, mais jamais le sujet n'est traité pour lui-même. Donc, il est plutôt difficile de nous servir directement de ces passages pour appuyer telle ou telle position. Mais une fois qu'on a dit ça, donc mise à distance du texte, contextualisation, on ne peut pas nier que bien qu'elle en parle très peu, à chaque fois que la Bible le fait, c'est toujours pour le condamner et avec une extrême sévérité. C'est cette sévérité, proche de l'intransigeance, qui demande qu'on en comprenne le mobile et le sens. Je vais donc maintenant prendre avec vous les arguments en faveur d'une bénédiction de couple marié du même sexe. Le premier point concerne la création et l'altérité. L'altérité des êtres humains ne saurait se réduire à la seule altérité sexuelle, parce qu'évidemment, ceux qui sont en défaveur disent qu'il n'y a pas d'altérité sexuelle dans un couple homosexuel, parce que, en termes psychanalytiques, on dirait que nous sommes dans le même. Mais, en faveur, on pourrait dire justement que l'altérité n'est pas que l'altérité sexuelle. Chaque être humain est de toute façon différent d'un autre. Chaque être humain est unique. Si bien que l'altérité se vit évidemment aussi au sein d'un couple homosexuel. Donc la différenciation évoquée par le récit biblique est suivie d'une bénédiction de Dieu. Et c'est le couple, Adam et Ève, qui est béni de Dieu, indépendamment ensuite de l'ordre qui vient derrière, qui est croissé et multiplié, qui vise à la reproduction. Et on parle bien ici de fécondité et non de reproduction. Comme l'argument est l'argument de la création, on pourrait dire que voilà, c'est naturel d'être homosexuel. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont fait un choix conscient, mais ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur être. Ensuite, concernant donc le deuxième point, la sexualité, la conjugalité et la fécondité. La sexualité fait partie intégrante de la vie du couple. Le fait qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle est une réalité seconde. L'être humain, quelle que soit son orientation, est appelé à humaniser sa sexualité, donc ne pas posséder l'autre ou le réduire à un corps. Et le plus important, c'est la conjugalité. Et bien évidemment, il y a une conjugalité dans un couple homosexuel. C'est de vivre à deux dans l'amour, dans la foi, dans la durée, dans la fidélité qui est important, quelle que soit l'orientation. Concernant les textes bibliques, le troisième point. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est loin d'être une question centrale dans la Bible. Et l'homosexualité dont elle parle n'est pas celle dont nous parlons. Dans la Bible, il est question soit d'actes ponctuels, soit d'actes ponctuels commis dans la violence, comme c'est le cas dans le texte de Sodome et Gomorre, dans la question centrale, et d'ailleurs davantage l'hospitalité que l'homosexualité. Et dans la Bible, cet acte homosexuel, il y a aussi une volonté d'humiliation ou de domination. Aujourd'hui, pour les couples mariés de même sexe qui viennent nous voir, il s'agit de relations consenties et sereines. Cette perspective ne se trouve pas dans les textes bibliques, d'où on peut donc être en faveur de cette bénédiction. Concernant la bénédiction en elle-même des couples mariés du même sexe, pour ceux qui sont en faveur, mettre une limite à la bénédiction n'est pas possible, parce que cela reviendrait à limiter la grâce de Dieu. Qui sommes-nous pour limiter la grâce de Dieu ? Et la Bible en elle-même, d'ailleurs, ne contient pas de bénédiction de mariage. Nous sommes donc libres de l'étendre à tous les couples, puisque le couple a une valeur en soi, comme l'indique le fait que la bénédiction dans le récit de la Genèse intervient avant même l'ordre de la création. Le cinquième et dernier point ensuite, concernant la communion de l'Église. On peut raisonnablement penser que le nombre de couples demandeurs sera faible, voire très faible. Ça dépend un peu où on se situe, en ville ou plutôt à la campagne. Et qu'il y a peu de risques, peu de conséquences, peu de risques que cela bouleverse véritablement la vie de l'Église. Les favorables disent que dans quelques années, on n'en parlerait peut-être plus, car il en a été ainsi, par exemple, concernant le ministère pastoral des femmes, qui a été très mal vécu au départ et maintenant est devenu normal, très apaisé. De plus, il peut y avoir des désaccords entre les églises sans que cela remette en question leurs relations. Et le protestantisme a à cœur d'accompagner les hommes dans leur réalité de vie. Il porte une attention aux situations singulières dans l'écoute des hommes et des femmes de leur temps. Le protestantisme a toujours été capable d'audace, comme le passé le montre, une audace qui peut l'amener à suivre une voie propre par rapport aux autres confessions. Voilà les 5 arguments en faveur, et nous allons faire une pause avant les arguments en défaveur. Voici maintenant les arguments en défaveur d'une bénédiction de couple marié du même sexe. Je vais reprendre donc les 5 points comme dans les arguments en faveur. Concernant la création et l'altérité. Pour les récits de la création, la différence sexuelle est essentielle. Cette différence fait partie intégrante de l'humain à l'image de Dieu. C'est homme et femme, mâle et femelle que l'humain est créé. La différence sexuée est présentée comme une donnée fondamentale donc de notre humanité qui a vocation à refléter l'être relationnel du Créateur. Et remettre en cause ce fondement, c'est sortir de la conception de l'anthropologie biblique. Et c'est le couple sexué qui fait l'objet d'une bénédiction. Le récit n'est certainement pas indifférent à la différence sexuée. Deuxième point concernant la sexualité, la conjugalité et la fécondité. Les récits de la Genèse ne font pas de la sexualité une idée abstraite ou secondaire, ils sont au contraire concrets et l'Écriture donne à ce concert un sens fondamental. L'être humain est un dans le masculin et le féminin, comme le couple est un par l'union de l'homme et de la femme. Bien évidemment, il y a une conjugalité homosexuelle, évidemment. Mais ce qui est bibliquement signifiant, c'est la conjugalité dans la différence sexuée. Dans toutes les relations, on peut trouver des valeurs importantes. Dans toutes les relations, il peut y avoir de l'amour, de la fidélité, mais la portée symbolique n'est pas la même. Quant à la fécondité, il y a certes différentes formes de fécondité, mais la fécondité visée par les récits de la Genèse est bel et bien celle de la procréation. C'est le couple homme-femme qui est appelé à croître, à se multiplier. Et évidemment, la vie du couple déborde au-delà du seul deux. Il y a toujours un souhait d'enfant derrière. Je dis toujours, mais bien sûr, il y a des cas où des couples ne veulent pas d'enfants. Donc on touche ici à la question de l'adoption, qui est un autre sujet que je ne pourrais pas aborder avec vous, mais qui fait partie des arguments en défaveur. Concernant les textes bibliques, le fait que les passages soient marqués culturellement n'empêche pas d'y trouver un sens pour aujourd'hui. Dans la Bible, l'homosexualité demeure pour l'ensemble des textes un signe de confusion. Et comme signe de confusion, elle s'oppose à la perspective de la création comme structuration du monde par rapport au chaos. L'union homme-femme dans l'altérité comme principe fondateur apparaît comme arrière-plan dans tous les textes en question, notamment donc chez Paul et bien sûr dans les textes du Lévitique. L'homosexualité chez Paul apparaît dans un catalogue, le catalogue des vices qu'on peut voir d'ailleurs dans les listes des moralistes chrétiens. L'homosexualité n'est pas seule en cause dans ce qui est dénoncé, mais le fait qu'elle s'y trouve donne quand même à penser dans les cadres de l'éthique chrétienne. En Romains 6, il est même dit qu'il y a question d'exclusion du royaume de Dieu. Quatrième point, concernant la bénédiction des couples. Il ne s'agit pas de discriminer. Bien sûr, il faut accueillir largement. Il ne s'agit pas de discriminer, mais de marquer une différence symbolique entre deux conjugalités. Une bénédiction des couples mariés de même sexe serait comprise comme un message annonçant que toutes les conjugalités se valent. Alors bien sûr, nous sommes à la recherche d'égalité, c'est une bonne chose, mais en cherchant l'égalité, nous ne pouvons pas dire que tout est équivalent, car ce n'est pas équivalent. Le mariage entre hommes et femmes va apparaître alors comme une forme parmi d'autres, et la vision biblique du couple sexué perdrait complètement sa force d'orientation. Cette remarque a pour souci de se tourner vers les jeunes, la catéchèse, parce qu'ils sont en recherche, en quête d'une identité sexuelle. Cinquième et dernier point qui concerne la communion de l'Église. Les églises protestantes, même celles qui s'ouvrent à la bénédiction, ne sont pas unanimes en leur sein. Ça, nous l'avons souligné en introduction. Et un avenir d'apaisement n'est pas du tout certain, parce que le sujet peut provoquer un éloignement dans les relations fraternelles et le risque de rupture de communion avec d'autres confessions chrétiennes est aussi un risque. Nous l'avons vu depuis que cette décision a été prise, les différents communiqués, soit des évangéliques, soit d'autres confessions qui nous sont arrivées. Alors, nous approchons de la conclusion maintenant. J'ai envie de dire, il faut que nous soyons paisibles, quelle que soit la vision que nous en avons, par rapport à l'homosexualité d'abord, et puis par rapport à cette décision. Il ne s'agit pas ici de partager le peuple de l'Église entre les pour et les contre, ou de caricaturer qui que ce soit. Il ne faut pas que les uns et les autres se sentent enfermés dans une position ou dans une autre, parce qu'il y a aussi toute une palette à l'intérieur, ceux qui sont sensibles aux arguments en défaveur alors qu'ils sont en faveur, ou on peut être sensible dans un sens ou dans l'autre. Alors, ces attitudes in fine ne feraient que dresser les uns contre les autres, ce qui serait un contre-témoignage. Et puis, un dernier point dans cette conclusion, les églises doivent promouvoir ce qui permet de vivre ensemble, surtout dans le contexte actuel, la montée des sectes et aussi les caricatures de tous bords qu'on fait des religions. Nous avons une vocation pour apaiser. Il ne s'agit pas ici de dire que quelques-uns ont gagné et d'autres ont perdu. Il s'agit de dire que nous devons apprendre à faire route ensemble avec nos avis différents et même divergents. Et si parfois nous pouvons avoir le sentiment de vaciller dans une société qui bouge sans que sa direction ne semble faire sens, il faut garder alors la confiance et la sérénité de celles et ceux qui n'ont rien à prouver, rien à perdre, parce que nous avons déjà tout reçu en Christ, dans l'attente que tout soit accompli.
Merci Dina pour toutes ces précisions et je pense que nous reviendrons peut-être sur le sujet à l'automne pour en reparler un petit peu plus, ce sera intéressant.
Oui, volontiers.
Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.